Chapitre 20. Le chapitre 20 des Actes vus sous la perspective de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Actes chapitre 20 n'est pas un simple récit de voyage ou un recueil de sermons d'adieu, mais contient la scène d'un apôtre qui a couru en s'accrochant à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit toute sa vie, transmettant officiellement l'essence et l'attitude de cet Évangile, ainsi que son héritage spirituel à l'Église. Les récits de ce chapitre montrent solennellement ce qu'une personne qui s'est emparée du salut déjà accompli doit laisser derrière elle au point final de sa vie. Actes, chapitre 20, versets 1 à 6, la répétition du voyage, sur la reconfirmation et la validation de l'Évangile accompli une fois pour toutes. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et, après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis il se rendit en Grèce, où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie, quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopaté de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et second de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe, et, au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passâmes 7 jours. Après que le tumulte a cessé, Paul réunit les disciples, les exhorte, fait ses adieux et visite à nouveau les régions de Macédoine et de Grèce. Ce n'était pas pour donner une nouvelle révélation, mais pour confirmer si le fondement de l'Évangile déjà prêché n'avait pas été ébranlé chez les saints. Parce que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit n'est pas une doctrine qui se transforme selon les époques, mais un événement accompli une fois pour toutes par le baptême, la croix et la résurrection de Jésus, le ministère de Paul a toujours procédé dans la direction de reconfirmer et d'établir fermement ce fait accompli. Actes, chapitre 20, versets 7 à 12, la nuit à Troas, sur la puissance de la parole qui vainc la mort et sauve la vie. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas, et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui ». Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi il partit, le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. À Troas, Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. À ce moment-là, Eutychus, qui était assis à la fenêtre du 3e étage et s'assoupissait, tombe et meurt, mais Paul le ramène à la vie. Cet incident n'est pas une simple anecdote de miracle, mais montre que Paul a mis sa vie en jeu dans l'œuvre de la prédication de la parole jusqu'au dernier moment avant son départ. La restauration de Eutychus était un signe montrant que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est la puissance pratique qui met fin à l'autorité du péché et de la mort et donne la véritable vie à l'humanité. Actes, chapitre 20, versets 13 à 16, la décision vers Jérusalem, à propos de la direction du Saint-Esprit établie pour la mission. Pour nous, nous précédâmes Paul sur le navire et nous fîmes voile pour Assos, où nous étions convenus de le reprendre parce qu'il devait faire la route à pied. Lorsqu'il nous eut rejoints à Assos, nous le prîmes à bord et nous allâmes à Mytilène. De là, continuant par mer, nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis de Chios. Le jour suivant, nous cinglâmes vers Samos et le jour d'après, nous vîmes à Milet. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Paul se hâte de passer Éphèse pour atteindre Jérusalem avant la Pentecôte. Ce n'était pas un désir personnel de martyr ou une décision émotionnelle, mais une intention d'en finir, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, Actes chapitre 20, verset 24. L'Évangile de la grâce, Que Paul avait l'intention de témoigner signifie la structure entière du salut déjà achevé par le baptême, la croix et la résurrection de Jésus. Et il a confié son emploi du temps à la souveraineté de Dieu pour accomplir cette mission. Actes chapitre 20, versets 17 à 21, auto-témoignage devant les anciens d'Éphèse, à propos de l'essence de l'évangile prêché avec larmes et humilité. Cependant, de mille et Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Paul, qui a appelé les anciens d'Éphèse depuis Milet, jette un regard rétrospectif sur son ministère et parle de « servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs ». Cependant, son centre n'était pas sur son propre caractère, mais sur le fait d'annoncer aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Il a souligné que la repentance ici est une transition de la pensée se détournant de l'idéologie humaine et que la foi consiste à accepter le fait du salut accompli exactement tel qu'il est. Actes chapitre 20, versets 22 à 24, le lien du Saint-Esprit. À propos de la direction menant à l'achèvement de la mission au-delà du confort. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit-Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Paul confesse « Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. » La direction du Saint-Esprit accorde une puissante orientation vers l'achèvement du témoignage de l'Évangile, plutôt que de garantir le confort ou la sécurité de la chair. L'Évangile de l'eau et de l'Esprit ne fait pas s'installer le croyant dans une vie confortable, mais devient la force motrice qui le fait vivre comme un témoin de l'Évangile jusqu'à la fin, comme quelqu'un qui a déjà reçu l'effacement des péchés. Actes, chapitre 20, versets 25 à 27, la déclaration décisive à propos du ministère de l'apôtre qui a prêché la volonté de Dieu sans rien cacher. Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Paul affirme aux anciens, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. C'est une confession confiante qu'il n'a omis ni compromis aucun élément de la structure entière du salut qui est le baptême, la croix et la résurrection de Jésus. Parce qu'il a prêché l'Évangile entièrement, il a pu dire « Je suis pur du sang de vous tous » et cela montre que c'est le plus grand héritage qu'un ministre à qui l'on a confié l'Évangile puisse laisser derrière lui. Actes chapitre 20, versets 28 à 31, la norme pour confier l'Église, à propos de la foi du troupeau bâti sur la parole de grâce. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Paul exhorte les anciens en disant « Sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang » et leur ordonne de s'examiner eux-mêmes et de protéger le troupeau, avertissant que des loups cruels enseigneront des choses pernicieuses et entraîneront les disciples. Il a clairement indiqué que la seule norme pour bâtir fermement l'Église n'est pas l'organisation ou le nombre humain, mais uniquement la parole de grâce. Actes chapitre 20, versets 32 à 35, le cœur de l'héritage. À propos de la vie de l'Évangile surmontant l'avidité et de la bénédiction de donner. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ses mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Comme dernier héritage de son ministère, Paul les bénit en disant « Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés ». Il leur rappelle qu'il n'a convoité ni l'argent ni l'or, mais qu'il a travaillé lui-même et aidé les faibles. Et il cite la parole du Seigneur « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». C'était une attitude de vie généreuse et mature que seuls ceux qui ont déjà reçu tout le salut sans prix peuvent avoir. Actes, chapitre 20, versets 36 à 38. La scène des adieux à propos de l'établissement de l'espérance éternelle liée par l'Évangile. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes. Et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient, affligés surtout de ce qu'il avait dit, qu'ils ne verraient plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Après avoir terminé ces paroles, Paul se met à genoux et prie avec toutes ces personnes. Ils fondent tous en larmes, se jettent au cou de Paul et l'embrassent, et, affligés encore plus à cause de la parole qu'il a prononcée selon laquelle ils ne verraient plus son visage, ils l'accompagnent jusqu'au navire. Ces adieux en larmes étaient le point d'intersection entre l'amour mature de la communauté qui est devenue une seule vie dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, allant au-delà de l'attachement humain. Et la conviction que bien que les corps soient séparés, l'évangile prêché demeurera pour toujours. En conclusion, Actes du chapitre 20 témoigne de la façon dont l'évangile de l'eau et de l'esprit définit et conduit la vie d'un apôtre du début à la fin. Paul n'a pas laissé derrière lui de splendides réalisations ou des bâtiments, mais n'a laissé qu'un seul évangile témoignant que le péché a pris fin par le baptême de Jésus. Actes chapitre 20 imprime profondément en nous que la norme du succès dans le ministère ne réside pas dans la quantité de travail accompli, mais dans le fait de savoir si la structure entière du salut a été prêchée sans rien cacher. Un sermon de Paul Sijong. La parole d'Actes, chapitre 20, versets 1 à 38, est le douloureux sermon d'adieu de l'apôtre Paul et, en même temps, c'est la parole qui montre le plus intensément par quoi commence et se termine le ministère de l'Évangile. En lisant ce texte du point de vue de l'évangile de l'eau et de l'esprit prêché par le pasteur Paul Sijong, les larmes, les avertissements et les exhortations ferventes de Paul ne sont pas entendues comme un simple épanchement d'émotion, mais comme un testament sévère pour défendre jusqu'au bout l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu a déjà accompli. Paul a cherché les disciples, les a exhortés et s'est mis en route même dans une situation où le tumulte et la persécution ne cessaient pas. Et la force motrice qui l'animait n'était pas le succès extérieur ou la sécurité, mais la conviction que le salut n'est pas maintenu par la protection humaine, mais n'est préservé que par l'achèvement de l'Évangile. Parce qu'il y avait cet achèvement du salut, à savoir que Jésus-Christ a pris en charge les péchés du monde par le baptême reçu de Jean au fleuve Jourdain, a reçu le jugement de ses péchés sur la croix, et que le Saint-Esprit en témoigne, Paul ne pouvait s'arrêter devant aucune adversité. Lorsque Paul a discouru jusque tard dans la nuit à Troas, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis à une fenêtre et s'assoupissait, est tombé du troisième étage et est mort. Mais Paul s'est penché sur lui, a embrassé son corps et a dit « Ne vous troublez pas car son âme est en lui » et l'a ramené à la vie. Cet incident n'est pas une simple démonstration de miracle, mais un événement important montrant que la vie a été restaurée à l'endroit où la parole est proclamée. Parce que l'évangile de l'eau et de l'esprit ne traite pas seulement du problème de l'âme, mais est la puissance de Dieu déclarant que l'autorité de la mort elle-même a déjà pris fin. Il a clairement confirmé sur quoi exactement se tient l'Église centrée sur la parole. Même dans le programme urgent pour aller à Jérusalem, Paul a appelé les anciens d'Éphèse depuis Milet à jeter un regard rétrospectif sur son ministère et à délivrer un message d'adieu. Il a rappelé qu'il a servi le Seigneur en toute humilité, avec de nombreuses larmes, et en endurant les épreuves qui lui sont arrivées par les embûches des Juifs, et qu'il les a enseignées sans hésitation, ne cachant rien de ce qui était utile, que ce soit publiquement ou dans les maisons. En particulier, il a dit qu'il a annoncé aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et la repentance ici ne signifie pas une pénitence émotionnelle, mais un changement de direction de la foi se détournant de ses propres œuvres et de la loi pour accepter le salut déjà accompli par le baptême et la croix de Jésus-Christ. Paul a confessé en disant « Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem ne sachant pas ce qui m'y arrivera. » Il a confessé « Seulement, de ville en ville, l'Esprit-Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, Actes chapitre 20, versets 23 à 24. » Cette confession est une déclaration que seule une personne qui a déjà obtenu la vie éternelle par l'évangile de l'eau et de l'esprit peut faire, et elle montre non pas une vie luttant pour obtenir la vie, mais la vie d'un témoin se livrant volontairement pour témoigner de la vie déjà obtenue. Paul a exhorté les anciens en disant « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. » Actes chapitre 20, verset 28. Ici, l'expression « l'Église que le Seigneur s'est acquise par son propre sang » implique que pour que l'effusion de sang sur la croix ait une efficacité, le baptême d'eau, à savoir que tous nos péchés ont été transférés à Jésus par le baptême reçu de Jean-Baptiste au fleuve Jourdain avant cela, est présupposé. Parce que le péché a été transféré, ce sang a pu devenir la mort de la rédemption, et par conséquent, l'Église est devenue une communauté acquise par le précieux sacrifice de Christ. Par conséquent, il a souligné que la mission de prendre soin de l'Église du Seigneur est une bataille spirituelle gardant la pureté de l'Évangile, allant au-delà d'une simple dimension administrative de gestion des personnes. Paul les a avertis et leur a demandé d'être éveillés en disant « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Actes chapitre 20, versets 29 à 30. C'est voir à travers le fait que la plus grande menace qui détruit l'Église provient de la distorsion consistant à ajouter ou à retrancher quelque chose à l'évangile de l'intérieur plutôt que de la persécution extérieure. C'est parce que si des œuvres humaines sont ajoutées à l'évangile de l'eau et de l'esprit, cela devient immédiatement du légalisme. Et si le problème du péché est brouillé, cela dégénère en une religion sans vie. Enfin, Paul les a bénis en disant « Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Actes chapitre 20, verset 32. Il n'a pas confié l'avenir de l'Église à des personnes ou à des systèmes, mais l'a confié uniquement à l'Évangile de la grâce de Dieu lui-même. Et c'est parce que le salut n'est pas une œuvre qu'une personne a commencée, mais un ministère que Dieu a accompli. Paul et les anciens se sont mis à genoux et ont prié ensemble, et ils ont tous fondu en larmes, se sont jetés au cou de Paul et l'ont embrassé, affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait d'eux plus son visage. Et ils l'ont accompagné jusqu'au navire. En conclusion, Actes chapitre 20 nous éveille au fait que le centre du ministère ne réside pas dans le succès extérieur, mais dans l'évangile de l'eau et de l'esprit déjà accompli lui-même. La personne qui possède cet évangile de l'eau et de l'esprit, selon lequel Jésus-Christ a pris en charge nos péchés au fleuve Jourdain, a reçu le jugement du péché sur la croix, et que le Saint-Esprit le confirme, peut être audacieuse même devant des adieux en larmes et peut tout confier paisiblement à la parole de Dieu, même au moment de partir. C'est la puissance de l'Évangile à laquelle l'apôtre Paul s'est accroché jusqu'à la fin et l'héritage éternel que notre Église d'aujourd'hui doit défendre. Rencontrons comment ces adieux en larmes de Paul mènent au pas de l'épreuve se dirigeant vers Jérusalem et l'arrestation. Comment cela est témoigné dans le plan souverain de Dieu et comment l'histoire d'Actes chapitre 21 a également continué. Questions et réponses sur le chapitre 20 des Actes. Première, l'évangile de l'eau et de l'esprit est-il l'évangile certain du salut qui doit être témoigné à tous les chrétiens? L'évangile de l'eau et de l'esprit est une vérité claire qui doit être témoignée à tous les chrétiens afin de restaurer la conviction de l'effacement des péchés, qui est l'essence de la foi chrétienne. La raison pour laquelle de nombreux croyants, tout en croyant en la rédemption par substitution de la croix de Jésus, se confessent encore comme des pécheurs et souffrent à cause des péchés qu'ils commettent chaque jour et qu'ils n'ont pas réalisé le principe du transfert légal de la façon dont le péché a été transféré de moi à Jésus par l'évangile de l'eau, le baptême. La Bible dit que l'esprit, l'eau et le sang sont d'accord, 1 Jean chapitre 5, verset 8, et souligne que pour la plénitude du salut, il faut nécessairement combiner et croire non seulement au sang de la croix, le jugement, mais aussi au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste, le transfert du péché. La raison pratique pour laquelle cet évangile doit être témoigné à tous les chrétiens est qu'il établit le fondement de la vie de foi sur la justice de Dieu et non sur mon zèle. Alors que notre effort pour laver les péchés par des prières de repentance à chaque fois s'appuie sur la volonté humaine, croire au fait que Jésus a pris en charge les péchés du monde une fois pour toutes par le baptême et a achevé cette punition sur la croix, c'est accepter le dessein parfait de salut de Dieu. Ce n'est que lorsqu'on croit cet évangile de l'eau et de l'esprit avec le cœur que le saint est complètement libéré de la culpabilité du péché et obtient la liberté spirituelle de pouvoir proclamer avec fierté « Je suis devenu une personne juste ». Par conséquent, cet évangile ne transmet pas simplement une connaissance théologique, mais est la nouvelle de vie proclamant l'expiation accomplie une fois pour toutes, pour toujours, à de nombreuses âmes dont la conviction du salut est ébranlée. Si le évangile de l'eau, selon lequel Jésus a porté tous les péchés du monde en recevant le baptême de Jean-Baptiste, est omis, l'évangile n'est rien d'autre qu'une demi-vérité, et les humains n'ont pas d'autre choix que de rester encore sous le poids de leurs propres péchés. Ce n'est que lorsque tous les chrétiens réaliseront cet évangile parfait qu'ils pourront enfin entrer sur le chemin de la véritable foi qui n'est pas liée par les œuvres, mais qui reçoit la direction du Saint-Esprit. Deuxième, comment le secret de cet évangile étonnant agit concrètement dans nos vies, à propos du sceau du Saint-Esprit ? La méthode par laquelle l'évangile de l'eau et de l'esprit agit concrètement dans nos vies commence par l'établissement de l'identité en tant que personne juste qui a déjà reçu l'effacement des péchés et non plus en tant que pécheur luttant contre le péché. Le sceau du Saint-Esprit est exactement comme un sceau spirituel par lequel Dieu nous confirme comme sa propre possession. Lorsque nous croyons cet évangile de l'eau, le baptême et du sang, la croix avec le cœur. Comme dans la parole d'Éphésiens, chapitre 1, verset 13, « Lorsque nous entendons et croyons l'évangile du salut, nous en venons à recevoir le sceau du Saint-Esprit qui avait été promis. Et c'est l'œuvre par laquelle le Saint-Esprit témoigne sans cesse en nous du fait légal. Tous tes péchés sont déjà passés sur le baptême et la croix de Jésus il y a 2 ans et ont été résolus. Chaque fois que nous sommes accablés par les péchés réels que nous commettons chaque jour et que nous tombons dans un sentiment de condamnation. » Une telle œuvre du Saint-Esprit change complètement la nature de la prière de repentance dans la vie d'un croyant. Si auparavant on offrait une prière pour l'exemption de punition, en cherchant le pardon par peur d'aller en enfer chaque fois que l'on commettait un péché, le saint, qui a reçu le sceau par l'évangile de l'eau et de l'esprit, croit que ses péchés ont déjà été transférés à Jésus et avance par conséquent vers une prière d'action de grâce et de confession, en disant « Ô Dieu, je te remercie d'avoir déjà entièrement enlevé même ces péchés de faiblesse par le baptême de Jésus. Le Saint-Esprit nous fait jouir d'une liberté pratique vis-à-vis de l'autorité du péché en nous faisant regarder la justice de Dieu qui a accompli l'expiation une fois pour toutes, pour toujours, et non en nous faisant regarder nos propres œuvres pour nous décourager. En fin de compte, le sceau du Saint-Esprit devient la garantie de sécurité spirituelle de nos vies. Même lorsque nous sommes émotionnellement ébranlés ou que nous commettons des erreurs, le Saint-Esprit nous rappelle le témoignage de l'Évangile appelé le baptême d'eau, le transfert du péché, et la croix de sang, le jugement du péché, gravé dans nos cœurs, et confirme que nous sommes les enfants de Dieu. Lorsque cette conviction devient la racine de la vie, le saint en vient à obtenir la véritable force motrice pour pouvoir vaincre le péché et était finalement transformé en une vie sainte portant le fruit du Saint-Esprit. C'est exactement le sceau concret du Saint-Esprit qui apparaît à ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'Esprit, et l'on peut dire que c'est la réalité de la foi qui vint le monde. Troisième, comment la conviction d'une personne juste obtenue par cet évangile apparaît-elle comme une paix concrète dans les relations interpersonnelles réelles ou les épreuves de la vie ? La conviction d'une personne juste obtenu par l'évangile de l'eau et de l'esprit, va au-delà de la doctrine abstraite et devient le fondement d'une paix intérieure inébranlable dans le domaine réel de la vie. Dans les relations interpersonnelles, nous sommes souvent facilement blessés et intimidés par la critique ou la condamnation des autres, mais une personne qui a la conviction légale que toutes ses fautes ont déjà été transférées par le baptême de Jésus est complètement résolue sur la croix, en vient à faire confiance au verdict de Dieu bien plus qu'au jugement des hommes. En d'autres termes, l'estime de soi spirituelle disant « Dieu m'a justifié, qui me condamnera ?» se forme de sorte que l'on n'alterne pas entre la joie et la tristesse sous le regard des autres, et que l'on en vient à avoir la tranquillité d'esprit de pouvoir accepter généreusement même la faiblesse de l'autre. De plus, même au milieu des épreuves féroces ou des adversités inattendues de la vie, cet évangile devient un puissant outil de paix. Lorsqu'elles subissent des épreuves, de nombreuses personnes sont captivées par la peur du châtiment en se disant « Quel péché ai-je commis pour recevoir une telle punition ?» Mais la personne juste qui possède l'évangile de l'eau et de l'esprit n'interprète pas sa propre épreuve comme une punition pour le péché. C'est parce qu'elle croit que toutes les punitions pour le péché ont déjà été portées par Jésus par le baptême il y a 2 000 ans et achevées sur la croix. Par conséquent, même au milieu de l'épreuve, elle maintient la paix dans la conviction que « Dieu me voit comme un enfant juste qu'il aime » et en vient à avoir la vue spirituelle pour pouvoir considérer cette épreuve comme un raffinement pour la croissance ou le bon plan de Dieu. En fin de compte, la paix donnée par la conviction d'une personne juste ne vient pas d'une émotion temporaire, surgissant parce que l'environnement est bon, mais du sentiment fondamental de soulagement que le problème du péché a été parfaitement résolu. L'amour de Dieu ayant été répandu par le Saint-Esprit dans le cœur, où la culpabilité du péché et la peur du jugement ont disparu, la capacité pratique de pouvoir confesser « mon âme est en paix » dans n'importe quelle situation extrême apparaît. Ainsi, l'évangile de l'eau et de l'esprit est une puissance pratique qui nous fait échapper au joug religieux, jouir fièrement de l'autorité d'une personne juste même face aux conflits des relations interpersonnelles et aux vagues de la vie, et marcher avec le Seigneur qui est le roi de paix. Quatrième, la conviction d'être une personne juste est la force motrice de la sanctification qui ne mène pas à l'indulgence envers soi-même, mais à la véritable sainteté. Explication. La conviction d'une personne juste, obtenue par l'évangile de l'eau et de l'esprit, ne conduit pas le croyant à l'indulgence envers soi-même, mais mène plutôt à une véritable sainteté enracinée dans l'amour volontaire envers Dieu. Beaucoup de gens s'inquiètent en disant « Si tous les péchés ont déjà été effacés par le baptême et la croix, n'est-il pas acceptable de commettre des péchés comme on le souhaite ?» Mais la personne qui a véritablement rencontré cet évangile est bouleversée par l'amour de Jésus qui a pris en charge, par substitution, le terrifiant jugement du péché. En d'autres termes, cela se transforme non pas en l'obéissance d'un serviteur qui, à contre-cœur, ne commet pas de péché par peur de la punition, mais en l'obéissance d'un enfant qui en vient à s'éloigner du péché par gratitude pour la grâce qu'il a reçue par le baptême et pour le sang qu'il a versé pour un pécheur comme moi. C'est exactement la puissante force motrice de la sanctification que possède l'Évangile. Dans le processus de sanctification, la conviction d'une personne juste joue le rôle de source fournissant une vitalité spirituelle. Lorsque nous nous considérons encore comme des pécheurs et que nous vivons chaque jour dans un sentiment de condamnation, il n'y a aucune force pour vaincre le péché. Mais lorsque l'identité disant « je suis déjà une personne juste et sainte » est établie par le sceau du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui habite en nous commence à diriger notre être intérieur pour vivre une vie conforme à ce statut. Même lorsqu'on commet un péché, on ne désespère pas, et on ne recule pas, mais une résilience centrée sur l'Évangile est générée, permettant de s'avancer immédiatement vers Dieu et de se relever en s'appuyant sur la justice de Jésus qui a déjà enlevé tous mes péchés. Une telle expérience répétée de la grâce moule progressivement le caractère du croyant à l'image de Christ et nous conduit à une vie sainte qui vint le monde, même sans coercition légaliste. En fin de compte, la véritable sainteté n'est pas un accomplissement moral bâti par mes efforts, mais le produit résultant d'une vie jouissant de la justice que Jésus a accomplie comme étant la mienne et marchant avec lui. L'évangile de l'eau et de l'esprit rend possible une communion sans entrave avec Dieu en nous libérant éternellement de la condamnation du péché. Au sein de cette communion, nous en venons à avoir un cœur nouveau qui prend plaisir à la volonté de Dieu plutôt qu'aux convoitises du monde. Et c'est exactement le fruit du Saint-Esprit dont parle la Bible. L'indulgence envers soi-même n'est qu'un malentendu de ceux qui ne connaissent l'Évangile que comme une connaissance. La personne juste, qui a réellement goûté à la puissance de l'Évangile, ne peut jamais être laissée à l'abandon au milieu du péché parce que cette grâce est si précieuse et elle en vient à désirer une sainteté plus parfaite de jour en jour. Cinquième. Lors de la prédication de cet évangile étonnant aux personnes de notre entourage, à propos de la méthode concrète d'évangélisation ou de la sagesse de conversation qui résout les malentendus que l'interlocuteur pourrait avoir. Explication. Le malentendu auquel on fait face en premier lieu lorsqu'on prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit autour de soi est la notion existante disant « N'est-il pas suffisant de croire simplement en la croix de Jésus ?» Et le doute, pourquoi le baptême est-il si important ? Afin de résoudre cela avec sagesse, plutôt que de nier la foi de l'interlocuteur, il est efficace d'approcher avec la logique d'un puzzle complété en empruntant le principe du sacrifice de l'Ancien Testament. En présentant le fondement biblique, Lévitique chapitre 16, verset 21, selon lequel le sacrificateur de l'Ancien Testament ne versait le sang qu'après avoir transféré le péché par l'imposition des mains sur l'offrande, il faut expliquer étape par étape le fait que, pour que le sang de la croix devienne la puissance de laver nos péchés, le processus de transfert des péchés à Jésus, avant cela, était nécessairement requis. À ce moment-là, si l'on souligne que la raison pour laquelle Jésus a demandé le baptême à Jean dans Matthieu chapitre 3 est exactement l'accomplissement de cette imposition des mains, l'interlocuteur en vient à réaliser la complétude légale de l'Évangile. De plus, lorsqu'on traite du malentendu concernant l'indulgence envers soi-même, disant « S'il a enlevé tous les péchés, est-il acceptable de commettre des péchés comme on le souhaite maintenant ?» il est bon d'utiliser l'analogie de la relation entre parents et enfants. En leur rappelant que ce n'est pas parce que les parents ont payé le prix à sa place et pardonné lorsqu'un enfant a commis une grande faute, que l'attitude de cet enfant qui a sincèrement expérimenté le pardon est de penser « Maintenant, je peux causer des ennuis comme je le souhaite ». Au contraire, tout comme un enfant qui a réalisé cet amour et ce sacrifice immense en vient à faire attention lui-même en voulant plaire à ses parents, il faut transmettre doucement l'idée que l'évangile de l'eau et de l'esprit nous conduit non pas à l'indulgence envers nous-mêmes, mais à une sainteté liée par l'amour. Faire preuve d'empathie envers le sentiment de condamnation et de peur de l'interlocuteur, en ajoutant un témoignage personnel disant « Moi aussi, j'étais tourmenté par le péché auparavant, mais j'ai finalement obtenu la véritable liberté grâce à cet évangile parfait. » Et la sagesse qui ouvre la porte du cœur. Dans la phase finale de l'évangélisation, il est important de faire se tenir l'interlocuteur devant le témoignage de Dieu et non devant des paroles humaines, en le laissant lire directement par lui-même des versets bibliques, Jean chapitre 3, verset 5, 1 de Jean chapitre 5, verset 6 à 8, etc. La patience d'attendre que le Saint-Esprit confirme le témoignage de l'eau et du sang à l'intérieur de ce cœur est nécessaire, plutôt que de chercher à persuader nous-mêmes. Essayez d'inviter avec conviction. Lorsque vous acceptez cette procédure légale enregistrée dans la Bible avec votre cœur, vous pouvez enfin être complètement libéré du fardeau du péché de toute une vie. Sixième, question fréquemment posée lors de la prédication de l'Évangile et éléments de réponse biblique pour y répondre. Explication. Les questions que l'interlocuteur pose le plus fréquemment lors de la prédication de cet Évangile sont principalement concentrées sur la signification de l'eau et l'éternité de l'expiation. Le verset le plus représentatif est « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit » de Jean chapitre 3, verset 5. Et beaucoup de gens interprètent souvent l'eau ici simplement comme la naissance physique ou la cérémonie du baptême elle-même. À ce moment-là, nous devons présenter ensemble 1 de Jean chapitre 5, verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Et souligner le fait que la Bible témoigne que lorsque Jésus est venu sur cette terre en tant que sauveur, il est passé à la fois par le processus de transfert appelé eau, baptême, et par le processus de jugement appelé sang, la croix. De plus, à travers Hébreux chapitre 10, versets 10 à 12, en soulignant que nous avons obtenu la sainteté par l'offrande du corps de Jésus, une fois pour toutes, et que ce sacrifice a une efficacité éternelle, nous pouvons résoudre légalement le doute. Qu'en est-il des péchés futurs? Comme support concret pour aider à la propagation de l'Évangile, il est très efficace d'utiliser systématiquement les livres de Paul Sijong. En particulier, son livre représentatif « Êtes-vous vraiment né de nouveau d'eau et d'esprit ?» a été traduit dans de nombreuses langues du monde entier. Et parce qu'il organise logiquement la corrélation entre l'imposition des mains et le baptême en pénétrant toute la Bible, il présente des réponses claires tant aux nouveaux croyants qu'aux croyants existants. Pour ajouter à la sagesse de la conversation, il s'agit de témoigner à l'interlocuteur pourquoi la Bible dit-elle que Jésus est allé à la croix après avoir reçu le baptême de Jean et avoir eu les péchés du monde transférés sur lui. Il est bon pour vous de poser cette question en premier et de les faire réfléchir par eux-mêmes. Si vous découvrez le vide théologique de l'interlocuteur à travers la question et que vous remplissez cet espace avec les évangiles de l'eau et de l'esprit, reliant le principe de l'imposition des mains dans Lévitique et l'événement du baptême dans Matthieu, vous pouvez susciter une empathie beaucoup plus profonde. Lors de la remise de documents, je vous recommande de sélectionner un livre adapté au niveau de lecture ou au niveau d'intérêt de l'interlocuteur et de le lui remettre accompagné d'une confession sincère sur comment ce livre a résolu le problème du péché dans ma vie.